Il attend qu'on convoquer demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
RMC Football Show.
Personnellement, les fessés, ça me plaît pas trop. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessés, pas moi.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, je vais pas dans ces boîtes-là.
Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot donc et de Jonathan Macardy qui nous a rejoint. Salut Jonathan.
Salut Nico, salut Pierre.
Ça va?
Salut Joe.
Toujours. Heureux toi ce soir?
Écoute, c'était pas mal, même si le match à la fin, c'est vrai que c'est un peu long.
C'est un peu long. Je vous donne quelques résultats également.
Deux, alors,
en Ligue 1, on va débuter cet after par les résultats de la 27e journée de Ligue 1. Un résultat de Ligue 2, le PFC qui a battu Lens 2-0 cet après-midi. Le PFC qui passe devant Lens à la 4e place au classement. Résultat très important pour une éventuelle montée. En Angleterre, il n'y a pas eu de but entre Everton et Liverpool. Fulham Chelsea, victoire 2-1 des Blues. La Real Sociedad s'est inclinée à domicile 2-0 face à l'Atlético de Madrid. Valence a battu Bilbao 2-0 avec un but de Gamero encore une fois. Le Betis a perdu à domicile face à Retafe. Retafe qui est toujours quatrième hein, en Liga, victoire 2-1 de Retafe. En Italie, la Juve s'est imposée 2-1 face au Napoli et l'Atalanta a battu la Fiorentina 3-1. 27e journée de Ligue 1. Ouais, lequel, Atalanta Fiorentina? Ouais. Tu l'as regardé celui-là?
Ouais. Franchement, il y avait du rythme, c'était tu sais, il y a un truc qui est cool, je sais pas si c'est très on a le droit de le dire, mais de télécharger les matchs comme ça après, bon, ça te permet de les voir sur ton ordinateur, t'avances, tu recules.
D'accord. 27e journée de Ligue 1, Lille qui a battu Dijon 1-0 cet après-midi, 0-0 entre Guingamp et Nantes. Nice s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Lyon qui a fait un carton 5-1 face au TFC. Et puis ça vient de se terminer. Marseille s'est imposé 2-0 face à l'AS Saint-Etienne. On va revenir sur ce match dans quelques secondes. Au classement, le PSG leader avec 71 points. Deuxième Lille, 54 points. Troisième Lyon, 49 points. Quatrième Marseille, 44. Cinquième Saint-Etienne, 43. Reims, sixième, 42. Nice 7e 40 points, 8 Montpellier 8e avec 38 points, Strasbourg est 9e avec 37 points, Rennes 10e 37 aussi, Nîmes 11 36, pareil pour Angers qui est 12e, Bordeaux est 13e avec 32 points seulement, Nantes qui est 14e avec 31 points, Toulouse 15e 28 points seulement, Monaco est 16e avec 26 points, Amiens est 17e avec 25 points, Caen barragiste avec 20 points, ils sont à égalité de points avec Dijon 19e et puis dernier Guingamp avec 19 points. On va débuter cet after par le plus important, les
mecs. L'essentiel.
Ouais. L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Pierre, on commence par tes 3 points.
Très rapide. Perf collectif de l'OM ce soir que j'ai beaucoup aimé. Ils ont pris le match par le bon bout avec un bon Balotelli qui met le premier but au bon moment. Individuellement, j'avais envie qu'on pointe un peu du doigt le petit Camara derrière qui c'est peut-être pas celui dont on a le plus parlé pendant le match mais il est en train de s'installer tranquillement et de faire des grosses perfs. Et puis je voulais qu'on revienne sur la perf de Lyon tout simplement parce que c'est ce qu'on attend de l'Olympique Lyonnais qui a fait un match plein avec un très bon Fekir, un bon Dembélé, un bon Traoré également, enfin voilà, un Noël costaud contre une équipe qui n'était pas à son niveau, certes le TFC, mais c'est les matchs qu'on attend contre ce genre d'équipe de la part de l'OL.
Jonathan.
Alors le premier point, je vais rejoindre Pierre, hein, c'est la performance collective de Marseille. Je pense que c'est une des performances les plus abouties depuis un bon moment. Donc Marseille, enfin là, on voit quelque chose de sérieux sur le terrain. Le deuxième point, c'est quand Fekir va, tout va. Écoute, Nabil Fekir revient, il fait une prestation de grande classe. Il a distribué du caviar à la louche pendant tout l'après-midi à ses attaquants. Donc on va attendre avec gourmandise le match retour au Camp Nou et de voir Fekir au très très haut niveau, joueur qu'il est de toute manière. Et le troisième point, c'est le LOSC. Le LOSC qui après deux nuls se remet la tête dans le bon sens, donc une victoire 1-0 sans trop d'éclat, mais le LOSC est sérieux et le LOSC consolide sa deuxième place.
Supporter de Saint-Etienne, supporter de Marseille, on vous attend au 32-16, on va revenir sur ce match, je vous donne mes 3 points également. Très bon match de Marseille qui, rappelons-le tout de même, avait beaucoup de cadres sur le banc, hein. C'est vraiment ça. Moi j'aurais du mal à dégager
justement,
la masse salariale sur le banc.
Voilà.
Justement, ouais, ça commence à s'inverser un petit peu. C'est intéressant.
Vraiment, Marseille était bon, j'aurais même du mal à dégager un homme du match. On saura les valtiens de ce Marseille-Saint-Etienne dans quelques instants. Et puis alors inversement, moi j'ai trouvé Saint-Etienne très très triste. Alors on a souvent fait d'ailleurs ce constat aussi, mais c'est vrai que Saint-Etienne a pas proposé grand chose. Il a démarré sans véritable attaquant Jean-Louis Gasset, ils ont eu du mal à exister dans ce match. Et puis comme toi Jonathan, mon dernier point c'est Lille qui lâche pas, Lille qui est toujours deuxième, qui s'isole, même si On en reviendra peut-être tout à l'heure. Pourrait y avoir du changement du côté du LOSC en interne d'ici quelques jours.
Et on faudra, je sais pas si on aura le temps d'en toucher deux mots, mais encore le Caillard qui arrête un penalty encore.
Ouais. Oui.
Ça commence à vraiment à devenir un sacré spécialiste.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Victoire de Marseille, 2-0 ce soir, ça vient de se terminer, 2-0 face à Saint-Etienne. Balotelli, premier buteur à la 12e minute de jeu, pénalty marqué par Thauvin à la 21e. Marseille qui monte à la 4e place, qui passe devant la Saint-Etienne, qui revient à 5 points du podium, à 5 points de l'Olympique Lyonnais. Grosse performance de l'OM ce soir.
Oui, c'est sûr. Écoute, il y a quelque chose qu'il faut quand même dire, c'est que bon, moi j'ai beaucoup tapé sur Rudy Garcia, mais là, je trouve que ce qu'il fait depuis quelques matchs, c'est courageux. C'est courageux, comme tu l'as dit, de laisser tous ses cadres et toutes ses gros salaires sur le banc, de maintenir sa confiance à cette équipe-là qui enchaîne les résultats positifs. Même si on a beaucoup parlé du manque d'adversité, hein. Il y avait une série contre Reims, Dijon, Bordeaux à 10. Là, quand même si le match contre Rennes n'a pas été génial. On contre Saint-Etienne, c'était un test. On l'avait dit en amont, hein, il va avoir une série de 3 matchs pour l'OM, Rennes, Saint-Etienne, Nice, et on verra ce que ça donne. Là, Saint-Etienne, pour moi, c'était un test. Et de voir qu'il maintient la même formule, ce 4-4-2, avec la charnière Camara, Tchaletatsar, que je trouve de plus en plus sereine. Pierre, tu voulais en parler du petit Bouba Camara, mais je les trouve de mieux en mieux. Au milieu de terrain, t'as Morgan Sanson, qui a fait 6 premiers mois vraiment moyen, si ce n'est horrible, qui là est énorme en ce moment avec Maxime Lopez. Moi, ça me satisfait, et je suis content de voir l'Olympique de Marseille dans cet état-là.
Ouais, en fait, faut préciser que Rudy Garcia a pas toujours eu la possibilité d'effectuer cette concurrence ou de mettre un peu d'émulation dans ce groupe parce qu'il a eu aussi beaucoup de pépins physiques avec certains joueurs.
Ouais, sauf que par exemple le petit Camara, il l'a mis,
j'allais y venir, il a pas toujours pu le faire, mais quand il a eu l'occasion de le faire, il l'a pas fait. Ouais. Et c'est ce qui lui a coûté très cher à mon avis parce qu'il a voulu témoigner beaucoup de confiance dans ses cadres. Ce qui est peut-être pas illogique finalement, mais sauf qu'à un moment donné, quand ça marche pas, il faut que tu changes. Il a profité du mercato, de l'arrivée de Balotelli, pour changer devant, mais pour en même temps changer d'autres choses derrière, au milieu, etc.
Et les blessures, en fait, c'est dynamique d'aubaine pour lui. La blessure de Rami, la blessure de Payet.
Mais aujourd'hui, t'as une vraie équipe qui se dégage. Je me demande comment Payet va pouvoir remplacer quelqu'un dans cette équipe-là. Honnêtement, Gustavo, c'est peut-être autre chose. Il va peut-être rentrer dans un turnover avec Sanson. Et Lopez et ça va et moi, ça va être bien.
J'ai avec tout le respect que j'ai pour Luis Gustavo, en ce moment c'est dur de sortir et Sanson et Lopez.
C'est pour ça qu'il rentrera, je pense, dans un turnover ou quand tu voudras en reposer un, il va rentrer et puis à lui de se remettre au niveau qui est le sien quand on l'a vu au bon niveau.
Une réaction sur le hashtag RMC Live, il y a Pagisignou qui nous dit: mais vous êtes pas sérieux sur la performance collective les gars, la deuxième mi-temps était dégueulasse, aucun mouvement, aucune intensité. Bah, oui, le fait d'avoir suggéré.
Mais tu sais quoi? Il a pas tort, mais en même temps il faut. Pour un match comme ça, quand tu mènes 2-0 à la mi-temps, le seul moyen de faire une seconde période, je suis désolé, mais à peu près potable, c'est qu'en face, il est un adversaire qui essaye de mettre du rythme parce qu'il perd 2-0, qui essaye de jouer. Sauf que là, Saint-Etienne n'a rien produit, n'a rien fait. Hein. Donc les Marseillais sont contentés effectivement de contrôler. Alors est-ce qu'on peut leur en vouloir de pas avoir eux accéléré, monter le niveau pour aller chercher autre chose? Je sais pas, je suis pas certain. Honnêtement, c'était pas eux de le faire en seconde période.
On en a un qui sera pas forcément d'accord avec ça. C'est Slim, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Slim.
Bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Bah, ça
bonsoir,
va et toi alors?
Écoutez, je suis ravi de ce match, franchement, c'était quand même assez bien maîtrisé, franchement, la première mi-temps était excellente. Après, pour la deuxième mi-temps, il pouvait peut-être y avoir des laissés-aller, mais comme l'a dit, je crois que c'était Pierre, la seconde mi-temps n'a pas été aussi bien maîtrisée du côté de Saint-Etienne, qui n'ont pas fait vraiment le jeu que Marseille aurait aimé. Donc par rapport à cela, je trouve normal qu'il y ait eu, on va dire, une qualité moindre pendant cette deuxième mi-temps. Après, moi j'ai quand même 3 joueurs à retenir dans tout ce match. Un, Camara, pour moi ce sera l'avenir de la défense. Oui. Sur le plan national, clairement. Et alors sur le plan international, encore mieux, je vous le dis.
Ouais, s'il continue à grandir, je suis d'accord avec toi.
Il est annoncé depuis des années comme un très très très.
Ouais, faut lui laisser le temps de s'imposer à l'OM et de devenir le patron derrière, parce que je pense qu'il en a vraiment les capacités. Mais après, ce sera l'étape suivante.
Il y a 2 ans, Manchester City faisait le forcing pour le récupérer.
Mais attends,
bon, laissons lui le temps. Faut pas aller trop vite. Mais c'est vrai, il a le potentiel.
Je te pose la question à toi. Je la pose aussi d'ailleurs après à Pierre et Jonathan. Mais ça vous énerve pas finalement que je sais pas, Marseille est peut-être pas un peu plus forcé en seconde période?
Vas-y, Slim.
Non, pas plus que ça, honnêtement, vu la qualité du jeu de Saint-Etienne. Je sais pas, il y avait un petit souci quand même du côté du milieu. Je vois par exemple Cabella qui n'était pas non plus dans le meilleur, la meilleure des conditions. Franchement, non.
Ça fait un moment que Cabella est pas très bon.
Ouais. Franchement, non, ça me semble normal. Et de toute façon, 2-0, vu qu'il y a les antécédents de l'OM, je pense que c'est pour ma part, un bon niveau. Je pense que c'est plutôt pour dire une bonne chose qu'ils aient terminé le match de cette façon. Il faut pas trop non plus trop s'enflammer, parce que sinon, là, on va avoir le prochain match contre PSG, contre Nice. Là, on a vraiment intérêt à montrer notre meilleur visage. Et si, à la limite, on fait une mi-temps de fou furieux et on assure la deuxième mi-temps comme il faut, je pense que les places en Champions League sont assurées. Après, j'ai un deuxième joueur, un troisième joueur vite à mettre en avant.
Parle bien devant ton téléphone, Slim, on t'entend pas très bien.
Désolé, oui.
Vas-y,
pardon,
là,
désolé.
Oui, on t'entend bien, vas-y.
J'ai un deuxième et troisième joueur à mettre en avant. Déjà, Sanson, pour commencer.
Ouais.
Il a été vraiment énorme pendant
ce match. Très, très gros match.
Voilà, ça c'est clair. Je me demande pourquoi on l'avait pas mis depuis le début dans ce 4-4-2, déjà.
Parce qu'il a eu, il n'a pas été très bon les six premiers mois.
Ouais, mais là, il a rarement eu aussi l'occasion d'enchaîner les matchs. Et...
Ah, en début de saison, rappelle-toi.
Ouais, un petit peu plus, mais pas dans cette configuration.
C'est très décevant en début de saison.
Et ton troisième gars, c'est qui, Slim?
Alors, celui qui pour moi est en train de monter en grade, Germain. Clairement, je pense que là, il a retrouvé la confiance grâce à Balotelli, d'une part. Même s'il a pas été, on va dire, transcendant lors de ce match, je trouve que il est en train de vraiment faire ce qu'il faut pour que la.
Alors là, je vais te dire, je pense que là, t'es en train d'ouvrir un truc qui va, diviser ou du moins faire débat. Il y a Barquette qui vient de réagir à l'instant même sur le hashtag RMC Live avant que tu dis ça. Payet doit être à la place de Germain, qui est assez inutile. Il va diviser une fois encore,
je pense que Payet aura du mal à apporter ce que Germain apporte à Balotelli. Très clairement, parce que ce sont deux profils complètement différents.
Des appels.
Oui, voilà, des appels, une débauche d'énergie autour de Balotelli qui est importante.
Deux centraux aussi, de par l'intelligence de ses déplacements.
Exactement. Ouais. Après, Payet peut apporter autre chose peut-être, mais moi j'aime bien. Alors sans être comme Slim très convaincu par la prestation ce soir de Germain, effectivement, je pense que l'association, le duo avec Balotelli fonctionne très très bien. Ouais, ça par contre.
Mais c'est quoi que t'as aimé, Slim, toi, dans le match de Germain, du coup?
Sa disponibilité pour commencer, ses passes, je crois qu'il a fait à peu près 90% de passes réussies pendant le match. Il est capable de dézoner et de revenir sur le premier plan offensif. Non, pour moi, c'est un joueur qui va apporter quelque chose vraiment sur attaque de pointe, enfin de pointe. Je ne sais même pas si on peut pas appeler ça une attaque de pointe avec Balotelli sur le côté. Mais en tout cas, je sais qu'il peut apporter un apport complémentaire à l'attaque pour lequel nous avions quand même de gros défauts. Je ne sais pas si on pouvait mettre Mitroglou, Germain à une certaine époque. Je crois qu'on l'a tenté peut-être deux, trois fois et ça n'a pas trop marché.
Deux fois, oui, seulement.
Et les deux fois, Mitroglou, ouais, c'est pas mal.
Oui, voilà, ce sera toujours le débat, ou en tout cas, on aura toujours la question ou la certitude, c'est qu'on les a jamais vus enchaîner 7-8 matchs comme ça et finalement se connaître suffisamment pour jouer. Alors ça aurait pas donné peut-être ce que ça donne avec Balotelli, parce que le potentiel est autre entre Balotelli et Mitroglou, mais moi j'aurais effectivement aimé voir Germain avec Mitroglou plus longtemps. Je suis persuadé que ça aurait été mieux que ce qu'on a vu les 6 premiers mois de ces deux garçons-là qui étaient alignés tour à tour de rôle.
Merci à Slim d'avoir été avec nous, bonne soirée. Salut, à toi Slim. On va accueillir Pablo. Tiens, on se posait la question de savoir si finalement c'était pas un peu frustrant d'avoir vu l'OM pas trop attaquer en seconde période. Bah, Pablo, il fait partie de ceux qui est un peu frustré justement. Salut Pablo.
Salut tout le monde.
Bonsoir Pablo.
Ah bah ouais, pour moi il y avait la place pour aller gagner ce match, mettre une petite fessée à Saint-Etienne, parce qu'en première mi-temps ils étaient KO debout. Les mecs ont rien proposé, on a mené 2-0 super vite.
On t'entend pas très bien, Pablo.
Alors attendez.
Vas-y.
Attendez.
Parle bien devant ton téléphone, s'il te plaît. Vas-y.
Là
c'est parfait. Vas-y, parfait. Merci Pablo.
Alors pour moi, en fait, il y avait moyen d'aller coller une petite fessée à Saint-Etienne, parce qu'en première mi-temps, ils étaient KO debout après les deux premiers buts. Mener 2-0 après 25 minutes de jeu, pour moi, c'était le scénario idéal, en fait, pour aller continuer à attaquer. Et je pense qu'au contraire, c'est moins fatigant d'attaquer que de courir après la balle, comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Alors après, on était peut-être un peu plus que dans la gestion et compagnie, mais pour moi, en fait, il y avait la place pour aller marquer le coup et dire, allez, l'OM est de retour, un peu, enfin. La semaine dernière, je vous avais appelé pour réagir et dire que justement, là, on avait deux matchs charnières avant de la Paris, c'était Saint-Etienne et Nice. Et pour moi, ce match, en fait, ça aurait été encore mieux qu'on le gagne quand même.
Mais le match de Rennes aussi, quand tu parles de la série.
Ouais, le match de Rennes aussi, parce que il y a deux mois, ce match, on l'aurait perdu. Là, on est allé chercher le match nul, c'est quand même bien.
Pablo, je suis d'accord avec toi. On aurait tous aimé que la seconde mi-temps soit plus emballante, qu'il y ait plus d'action, etc. Après, quand tu sors de la période dans laquelle tu étais avec l'OM, c'est-à-dire une équipe qui avait pas de repères, qui était fébrile, qu'il n'y avait pas de certitude.
Une période de ce match-là, ils auraient pu prendre le but qu'il fallait faire en seconde période aussi.
Exactement. T'aurais pu, ou, il y a 6 mois, ça aurait fait 2-1, et puis au final, c'est ce que ça fait quand ça fait 2-1. Au final, ça finit toujours pas revenir. Là, de les voir gérer, de les voir se mettre à l'abri, de pas se mettre en danger, de voir la sérénité dégagée par Bouba Camara et Tchaleta Tsar derrière, et le travail intelligent des deux milieux de terrain. Ok, c'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu pour le spectacle, mais je trouve qu'il y a des signes très positifs de voir ce genre de comportement.
En fait, on n'est pas en contradiction avec Pablo. On aurait tous effectivement, comme le dit Joe, préféré que Marseille appuie un petit peu. Mais on peut comprendre que Marseille soit resté dans la maîtrise,
dans la rémission,
parce que Saint-Étienne leur a pas permis, entre guillemets, de sortir un petit peu et de faire plus.
Faut parler de Saint-Étienne aussi. Enfin, je veux dire, quand tu fais 2-0 au bout de 20 minutes, il faut que t'aies aussi de l'opposition.
Non, mais les gars, je vous dis pas le contraire, en fait.
Non, on dit pas l'inverse, personnellement.
Le truc pour moi même parce que regardez, en deuxième mi-temps, même en étant dans la gestion, Saint-Étienne a 2-3 situations quand même où on passe pas loin de prendre le but. Donc, à la limite, si on mène 3-0, prendre un but, on se dit...
Ouais, bon, tu te mets à l'abri, ouais.
Mais à 2-0, tu pars à l'abri vraiment, tu vois. C'est ça le truc, c'est que le troisième but, il est tellement important dans le match.
Mais Pablo, tu sais, moi, je pense que Marseille était malade, et là, ils sont dans une phase de rémission, et c'est étape par étape. Là, l'étape, c'est de retrouver de la sérénité, de retrouver du calme et des certitudes, notamment sur ta base défensive. Et puis, la prochaine étape, ce sera, comme tu l'as dit, d'emballer le match de A à Z pour sur les 90 minutes.
Ouais, j'espère que contre Nice, ça va y avoir un scénario un peu comme ça.
Voilà, c'est Nice et PSG les prochains matchs. Hein.
Ouais, PSG, c'est un match à part pour tout le monde.
Souvenez-vous, il y en a certains qui étaient là-dedans aussi qui disaient, et puis ça a cassé la dynamique. Souvenez-vous de l'OL notamment. Enfin, ça peut aussi te freiner. Hein,
moi, je pense pas que ce soit ce match-là qui ait freiné l'OM ou qui que ce soit quand il joue contre le PSG en ce moment. C'est qu'il y a autre chose derrière. C'est pas le match qui peut te créer ou te casser une dynamique.
Ça peut te casser quand même. Même évidemment, si tu sais que le PSG est tout dessus.
Pour la tête, ça peut être difficile de prendre une rouste à Paris, mais bon, tu joues pas dans la même catégorie que le PSG.
Ouais, je suis pas persuadé, comme Pablo. Voilà, moi, je pense que si t'arrives à gagner la Saint-Etienne ce soir et que tu fais un bon match contre Nice, honnêtement, c'est beaucoup plus important pour l'OM que d'aller. Alors si l'OM arrive à gagner contre le PSG, oui, forcément, ça les dynamisera et ça leur fera très plaisir, en plus de faire plaisir aux supporters. Mais honnêtement, c'est pas là que Marseille doit être bon pour moi. C'est sur Nice.
Le prochain match contre Nice, on en sera encore un peu plus. Là, pour l'instant, on avait fixé une série de 3 matchs Rennes, Saint-Etienne, Nice pour faire le bilan. Là, pour l'instant, tu vas chercher un nul à Rennes en n'étant pas très bon, faut le dire. Là, ce soir, tu fais un match plus que correct et tu prends les 3 points.
Si t'enchaînes contre Nice, ce sera
tu le tireras après Nice.
Ouais, sachant qu'avant t'as tapé Amiens, Dijon et Bordeaux qui sont pas non plus
Bordeaux à 10, ouais. Amiens et Dijon, voilà.
Ouais. Oui, mais c'est des matchs que ce nouvel OM, je parle presque de nouvel OM, arrive à gagner. Et qui en première partie de championnat gagnait pas.
Enfin, souvenez-vous déjà la saison dernière, le problème de l'OM était pas tant de gagner ces matchs-là, était plutôt de gagner face aux gros.
Nico, par rapport au début de la saison. En début de saison, Marseille a quand même enchaîné, je crois que c'était 13 matchs.
Non, mais là tu tapes Saint-Étienne qui est quatrième au coup d'envoi.
Donc là c'est vraiment une nouveauté. Voilà.
Pablo, pour finir, vas-y.
Bah écoutez, moi je suis complètement d'accord avec vous. Au final, on s'est relancé en gagnant contre des équipes contre qui on devait gagner. On a fait un match la semaine dernière, on prend un point à Rennes, il fallait le prendre parce qu'à deux mois on l'aurait perdu. Ce soir on tape le quatrième, on prend sa place. La semaine prochaine il faut gagner et puis on va relancer la dynamique positive. Ce sera pas le match contre Paris qui va être déterminant, mais voilà, on va avoir d'autres matchs plus importants à jouer. Je pense à des matchs comme Montpellier qu'on va jouer à la maison. Des clubs comme ça qu'on va à Strasbourg, on va aller à Strasbourg, là, c'est la chance qu'on va gagner pour recoller en fait dans le top 3, quoi.
Tout à fait.
Parce que, mine de rien.
Le top 3, t'y crois, toi, Pablo?
Ah, moi j'y crois.
C'est vrai,
5 points, on rappelle. Hein.
Moi, j'ai du mal à penser que Lille et Lyon vont lâcher tous ces points, quoi.
En fait, il y a Marseille-Lyon qui va être décisif, qui arrivera en 36e, il me semble. 36e journée.
Ouais, mais ça veut dire qu'avant, il faut que Marseille ait recollé. Ah, plus que ça, parce que t'as un goal average qui est très positif pour Lyon, donc il faut que tu puisses passer devant lors de ce match-là, quoi.
Je pense qu'il faut que t'arrives à leur reprendre 3 points. Si tu leur reprends 3 points, ça va?
Ouais, voilà. Si t'as plus que 2 points de retard.
C'est une victoire, une défaite, quoi.
Merci à Pablo, en tout cas, supporter de l'OM, d'avoir été avec nous. On rappelle victoire de Marseille 2-0 face à Saint-Etienne ce soir. Marseille qui est quatrième de Ligue 1. Ouais. Autre rendez-vous qu'on va avoir dans les prochains jours. Eh ben, c'est les 8e de finale aller d'Europa League entre Rennes et Arsenal. Génial. Ce sera jeudi sur RMC Sport 1 à 18h55, coup d'envoi. Mais nous, on vous fait gagner des places pour aller voir ce match entre Rennes et Arsenal. Pour cela, vous envoyez foot, F-O-O-T, au 7-32-16, foot au 7-32-16 pour remporter des places pour aller voir ce huitième de finale aller d'Europa League entre Rennes et Arsenal. Match historique. Jérôme Thomas est déjà comme un ouf. On continue d'analyser, de disséquer ce Marseille-Saint-Etienne, victoire 2-0 de l'OM, donc face au Vert. On vous attend, supporter de l'OM au 32-16, supporter des Verts également. Dans quelques instants, on sera avec Jean-Christophe, supporter de Saint-Etienne, qui est dégoûté après cette défaite 2-0. À tout de suite avec Jonathan McCarty et Pierre.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Jonathan McCarty, ça vient de se terminer entre Marseille et Saint-Etienne. Marseille s'est imposé 2-0 face au Vert cet après-midi. Lille a battu Dijon 1-0, 0-0 entre Guingamp et Nantes. Nice s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Et Lyon qui a battu Toulouse 5-1. On vous attend pour revenir sur tous ces matchs au 7-32-16 avec Jonathan et avec Pierre. Tiens, on évoquait tout à l'heure également la célébration de Balotelli après son but à la 12e. Le premier but de ce Marseille-Saint-Etienne. Vous savez, il est allé vers un cadreur, alors qui est le cadreur d'ailleurs de d'OMTV. Et qui avait son téléphone portable. Alors c'était prémédité. C'est Flo Germain qui nous explique ça, une info qui vient de nous remonter. Il avait mis son téléphone en mode vidéo pour être prêt justement à filmer une éventuelle célébration de but, Mario Balotelli. Et ensuite il a posté ça direct sur les réseaux sociaux, sur Instagram d'ailleurs.
Ouais.
C'est marrant,
c'est marrant, bien sûr.
Et puis là, il est en train de s'acheter une cote de popularité qui est exceptionnelle là, en faisant ce genre de petit geste.
Bah, déjà, c'était à prévoir si ça fonctionnait sur le terrain, c'était à prévoir que ça matche très vite.
Attention, à la fois qui part, qui devient fou, qui part vite, qui est extraordinaire. Je vous rappelle juste que pour l'instant, Marseille là, jusqu'en juin. Pas trop s'attacher non plus émotionnellement.
Non, mais il faut que ça
t'as
se partage.
T'as peur de faire plaquer, toi.
Ce sera pas plaqué, c'est convenu pour l'instant, tu vois,
c'est comme si tu rencontres une nana, je suis pas amoureux d'elle, mais tu sais qu'il y a une date d'expiration qui arrive dans 6 mois, ça fait un peu chier.
Ouais, c'est comme si elle te disait, tu sais quoi, dans 6 mois, bah je pars m'installer au bout
avec
du monde.
Un autre, exactement. Ouais. Avec un autre.
Et bah tu profites. Le dernier match, tout le monde pleurera.
Le dernier match, tout le monde pleurera
parce que Balotelli fera un triplé pour que Marseille obtienne la troisième place.
Toi, t'es pas du genre à protéger tes sentiments. Toi, tu te gères corps et âme dans la romance.
Si tu te gères et que tu te jettes pas corps et âme, tu gâches non seulement l'après, il est déjà gâché parce que t'es plus ensemble, et puis pendant que t'es ensemble, c'est gâché aussi parce que t'en profites
pas le moment parce que tu cogites.
Parce que t'en profites pas, bien sûr. Donc que tout le monde profite, que Balotelli continue à être performant, que les supporters de l'OM continue de profiter des performances de Balotelli.
Peut-être que ça peut lui donner envie de rester.
Exactement. Est-ce que ça peut pas déclencher est-ce que la nana elle va pas finalement étudier je sais pas où à l'autre bout du monde et elle reste ici.
Souvenez-vous, c'est un peu ce qui s'était passé avec Nice, hein. Il avait un accord pour partir au bout d'un an. Bon, après il a fait ces fameux 6 mois qui sont pas très bien passés non plus. Il est resté un peu plus longtemps que prévu avec Nice finalement.
Moi je suis partisan pour ça de profiter de l'instant présent. On en avait parlé dans un after. Et puis après tu verras bien, quitte à être en concurrence avec d'autres clubs, tu verras bien ce qui se passe.
Tiens, accueillons Jean-Christophe, qui est supporter de Saint-Etienne et qui est pas content, Jean-Christophe. Salut, Jean-Christophe.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Jean-Christophe.
Défaite 2-0 de Saint-Etienne à Marseille. Ce soir, Saint-Etienne qui restait sur une victoire 1-0 face à Dijon. Avant ça, il y avait eu la défaite 1-0 face au PSG. Et avant encore, une victoire 2-1 face à Strasbourg. Ils alternent, victoire-défaite en ce moment, les Verts, Jean-Christophe.
Oui, je crois que ce soir, on a vu, complètement l'incohérence qui règne complètement dans ce club. Je vais être très grave ce soir et très critique parce que finalement on se rend compte que ce club dans sa gestion, dans sa gouvernance et même sur le terrain, ça fonctionne pas.
T'es quand même cinquième de Ligue 1, Jean-Christophe. Hein.
Ouais, faut pas tout remettre en question quand même, Jean-Christophe.
C'est complètement illusoire. Je crois que la défaite dans le derby nous a fait énormément de mal. T'es cinquième, t'as des ambitions, vendre le meilleur joueur, c'est le NAS. Donc ça dit, je comprends pas. Moi j'ai vraiment l'impression que quelque chose s'est estompé dans ce club. On sent qu'il y a des distensions dans la gouvernance des dirigeants. Tu vends Béric, tu veux faire signer pour 3 ans. Tu comprends pas, tu ne donnes pas à cette équipe les moyens d'aller chercher justement cette troisième place. C'est vraiment une ambition. Donc moi je dis, c'est quoi l'ambition de ce club?
Moi je suis pas sûr que l'ambition du club ce soit d'avoir la troisième place. L'ambition du club c'est d'être là où ils sont en ce moment,
Pierre,
je pense, pour l'instant.
Ce qui peut être frustrant quand t'es supporter de Saint-Etienne, c'est que à la trêve, il restait sur une bonne dynamique et tu te disais, est-ce que Saint-Etienne peut pas aller chercher le podium? Tu te rappelles, avant la trêve. Et qu'est-ce qui se passe pendant la trêve? Tu vends Ole Selnes, qui était peut-être pas ton meilleur joueur, mais du moins un joueur les plus importants.
Tu es obligé de céder parce qu'il fait tout pour se barrer.
Mais tu peux pas résister, c'est ça le problème. Et rappelez-vous que 5 mois avant, Saint-Etienne est relégable.
Ça va très très vite là.
Jean-Christophe, c'est ça. Je veux bien que tout soit pas encore parfait. Je te rejoins. Mais honnêtement, le travail qui a été fait, et je trouve que c'est un peu plus ordonné que ce que ça a été dans le passé
Jean-Christophe, juste un truc. À la limite, que tu dises qu'en ce moment tu t'emmerdes en les regardant et qu'au niveau du jeu.
Ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir.
Je crois que c'est plus sur le terrain qu'il y a des soucis en ce moment.
C'est ça qui est frustrant.
Vas-y, Jean-Christophe, c'est quoi toi exactement qui te met colère, quoi?
Ben moi, ce qui me met colère aujourd'hui, je prends le match de Kabela et Kasri. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux joueurs, sur ce match-là, justifient toutes les ambitions qu'on a mises sur eux, qu'elles soient financières ou qu'elles soient, je dirais, dans les éloges qu'on aura fait ces derniers jours? Ça ne marche pas ce soir. Ça ne marche pas. Et si tu veux aller faire un résultat à l'OM, eh ben peut-être que tu peux te passer peut-être de Kabela pour qu'il amène un plus, ou peut-être de Kasri, mais tu fais jouer Kasri dans un rôle qui aujourd'hui il n'apporte plus rien. Ce garçon-là est un peu perdu. Mais comme c'est perdu le club, j'ai l'impression que ce club s'est perdu dans sa ligne conductrice.
J'ai un peu dur comme mot.
Ouais, Jean-Christophe, je pense pas me tromper, mais il y a encore 4 ou 5 semaines, on faisait des articles partout, tout le monde allait interroger Kasri sur son rôle de neuf, son nouveau rôle de neuf, et pourquoi il se sentait si bien dans ce rôle-là, etc. Là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui ils sont pas performants et que ça fait 3-4 matchs qui sont un peu moins bien.
Il y a peut-être des raisons purement
sportives, voilà, physique, tactique peut-être, parce que ça s'arrive plus à se trouver.
Je pense qu'on en fait beaucoup sur son poids, mais là physiquement tu sens qu'il est dans le dur.
Mais tous ils sont dans le dur,
on arrive. Vas-y, Jean-Christophe.
J'ai intervenu sur votre antenne le soir du Tour de Nantes. On était tous super contents de ce bon match. Mais je dirais que aujourd'hui, moi j'ai 50 ans cette année. Ce club-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui me pousse demain encore le soutenir? Parce que je ne vois rien. C'est un club qui aujourd'hui a une telle consistance dans sa façon d'être.
T'as une vision plus globale. Là, moi, où je peux comprendre la frustration, c'est aussi que quand tu regardes l'effectif de Saint-Etienne, il y a quand même des bons joueurs. Je pense que tu peux faire un peu mieux dans le contenu. Tu peux proposer un peu mieux. T'es pas obligé de rester avec cette défense à 5 qui a certes marché à un moment, mais là tu vois que en termes de tenue du ballon, dans les phases de transition, il y a pas grand chose.
Moi, je suis d'accord avec toi avec le contenu, mais après avec l'effectif que t'as, t'es 5e, c'est pas dégueu pour une équipe comme ça.
Non, mais bien sûr, le
contenu, moi, je partage pleinement votre opinion. Mais de là à dire, je comprends pas je te comprends sans te comprendre en fait, Jean-Christophe. Je comprends ta frustration, t'es pas largué. Enfin, t'es pas Monaco.
Mais on sait très bien que Monaco c'est un accident industriel parce qu'ils ont choisi un modèle et ils en payent des conséquences et ils ont les moyens financiers de se relever la preuve parce qu'ils ont mis un paquet de thunes cette année et ils ont rebâti une équipe qui va pas descendre et puis l'année prochaine ça va être une autre saison. Moi je te dis simplement une chose, en 2017 tu re-signes Romain Amouma jusqu'en 2021. Est-ce que vous avez vu le match? Ça fait de la peine qu'amène Romain Amouma aujourd'hui.
C'est compliqué. Mais c'est un bon joueur quand même. C'est quand même un bon joueur, Jean-Christophe. Romain Amouma, ça reste un bon joueur.
Mais on le voit pas.
Ouais, parce qu'il a eu des blessures.
Là, c'est une période depuis 3-4 matchs qui est difficile pour les Verts. Mais ça n'a pas toujours été. On a parlé de Saint-Etienne dans cette saison.
Les matchs d'avant, les défaites et de nulles.
Purement. Non, mais si on parle, purement en termes de jeu. Moi, je pense que avec ce 5-3-2, la présence d'un joueur comme Selnes était primordiale.
On s'est dit, ça y est, on l'a perdu.
Dans le 5-3-2, c'est important d'avoir un joueur comme Selnes qui a un très bon genou, qui est capable d'orienter les ballons très très vite vers l'avant, de faire cette passe, tu vois, une passe laser qui va percer des lignes. Là, Bennacer, très bien pour le remplacer, mais ce n'est pas vraiment le même profil. C'est pas du tout le même joueur.
C'est ça le problème. Moi, je pense qu'ils ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix de le garder.
Ils
auraient été ravis de le garder, mais je pense que t'as pas le choix, malheureusement.
Ils ont refusé de l'augmenter.
Il a eu une propale de dingue et il voulait pas la rater.
Je pense que t'as pas le choix, malheureusement.
D'après ce que j'ai compris, il y a eu des négociations, il voulait 200 000 de salaire et Saint-Etienne a refusé de lui donner.
C'est compliqué aujourd'hui.
Ça peut se comprendre, mais ça reste, pour moi, je pense que c'est un joueur qui est rare. J'en fais peut-être trop sur lui. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant que t'as plus Selnes, je pense qu'il faudrait peut-être essayer autre chose que cette défense à 5.
Alors on est toujours pressé, et je comprends Jean-Christophe, qui est supporter des Verts, qui va voir tous les matchs, et qui effectivement, dans le contenu en ce moment, s'embête un petit peu et voit pas que ça avance. Moi, je rappelle toujours qu'il y a un an et un mois, Saint-Étienne était très mal. Il y a eu un gros boulot fait.
C'était la D2. Hein.
Voilà, il y a eu un gros boulot fait. Et la prochaine étape, c'est peut-être de se débarrasser de 2-3 joueurs là, dans l'effectif, voire un peu plus, et de rapporter encore du sang frais. Et si tu finis quatrième ou cinquième cette saison et que tu peux rapporter de faire un bon mercato derrière, honnêtement, Saint-Étienne aura fait son taf cette année.
Là où je suis un peu d'accord avec Jean-Christophe, c'est justement parce que t'as eu cette dynamique pendant 6 mois après le mercato il y a un an. Les 6 premiers mois étaient pas mal pour Saint-Étienne aussi. Oui. En début de saison.
Mais t'arrives peut-être au bout de
la dynamique inverse.
Mais t'arrives peut-être c'est au bout de ce que tu peux faire. T'as tiré peut-être le maximum de ce que tu pouvais faire en termes de qualité et d'utilisation de ton effectif. C'est peut-être ça aussi. T'as pas un effectif pléthorique. Et aujourd'hui, t'as des joueurs. On le voit bien. Casri est depuis un petit moment là, plus le Casri du début de saison. Cabella, pareil. Amouma, pareil.
Et puis ils ont aussi. Il y a aussi à leur décharge. T'as quand même des blessures importantes. Hein.
Ouais,
Kevin
aussi.
Monet Paquet,
exactement.
Leur latéral le brésilien. J'oublie toujours. Gabriel Silva.
Bien sûr,
tu perds sur le.
Avec tout ça.
C'est quand même deux très très gros coups durs, parce que c'est deux titulaires indiscutables.
Merci à Jean-Christophe d'avoir été avec nous. Belle saison à toi, Jean-Christophe. Tiens, on va accueillir Yaya, supporter de l'OM, pour faire l'évaluation de ce Marseille-Saint-Etienne. On rappelle 2-0, Balotelli et Thauvin, buteur, Thauvin sur pénalty. Salut Yaya.
Salut l'équipe, ça va?
Salut Yaya.
Ouais,
bonsoir,
et toi alors Yaya?
Là, ça va très bien. Je suis super content d'être en ligne. Je kiffe Jou. Jonathan, vraiment, ses analyses sont toujours pertinentes.
Et gentil, merci.
Pas toujours.
En plus, j'apprends des nouveaux mots, donc c'est parfait.
Toi aussi, moi aussi.
Je ressors le vocabulaire de Joe, ça fait très intelligent.
Exogène, moi j'ai appris.
Ça fait longtemps que t'as pas dit indigent d'ailleurs.
Bah là, on peut peut-être.
Il en a pas l'occasion.
Alors, Yaya, qui est pour toi l'homme de ce match, l'homme de ce Marseille-Saint-Etienne?
Maxi Lopez. Et pourtant, je l'aime pas. Mais alors, sincèrement, aujourd'hui, j'étais au stade, et il a couru.
Pourquoi tu l'aimes pas?
C'est pas que je l'aime pas. Alors c'est juste que je trouvais qu'il allait pas assez de l'avant. Je trouvais que son jeu était plutôt latéral.
Parfois un petit peu stéréotypé, latéral.
Voilà, exactement. Et c'est ça que je trouvais qu'il lui manquait dans son jeu.
Pas cette prise de risque au bavon.
Et voilà. Et là maintenant, je trouve que il s'affirme.
Ah, il est énorme en ce moment.
Âge ou peut-être ou enchaîner les matchs, mais en tout cas voilà, il s'affirme et il va de plus en plus vers l'avant. Et il est excellent en fait quand il fait.
Et le problème, Yaya, c'est que pour jouer vers l'avant dans les 6 premiers mois à l'OM, c'était pas évident, hein, parce que quand tu voulais jouer vers l'avant, il fallait trouver Mitroglou en pointe ou Germain en pointe, et t'avais pas beaucoup de solutions.
Tu sais, même sur les 6 premiers mois, il était. Il avait un peu perdu sa place, il avait pas trop l'occasion de jouer. Là, il faut dire que depuis 2019, je pense que c'est le meilleur joueur de l'OM.
Ah non, oui, et puis on insiste jamais assez suffisamment sur le fait que le foot reste un sport collectif. Et à un moment donné, quand t'as un collectif qui fonctionne pas, c'est compliqué.
Surtout pour un joueur comme ça, qui
bien
est très dépendant.
Bien sûr, qui est dans le cœur du jeu. Et
votre homme du match, c'est qui vous?
Morgan Sanson.
Bah, moi, je suis assez d'accord.
Alors,
avec
mettre Lopez aussi.
Sanson, je suis d'accord. Et puis juste derrière, moi, j'aurais mis Camara.
Ouais. Camara Tolier.
Ouais, peut-être.
Oui, Tolier déjà.
Ah, moi, je trouvais qu'il a tout la
barre. J'aurais peut-être fait l'inverse. Alors, peut-être Camara homme du match et Sanson Tolier, non?
Tu sais pourquoi Tolier?
Ouais,
parce que je trouve que la manière dont il se comporte, alors que malgré son jeune âge,
on dirait
c'est lui qui dirige la défense, c'est lui qui replace les autres, c'est lui, je l'ai vu pousser deux trois petits golantes sur les trois autres.
Dans l'utilisation du ballon.
Dans l'utilisation du ballon, il est très fort, il a une très belle relance, et surtout ce que je trouve, c'est qu'il a, en seconde période, il a été très intelligent dans ses déplacements. Quand il sentait que le bloc reculait un petit peu trop, lui fait le pas en avant pour faire remonter tout le monde, pour pousser les autres à aller vers de l'avant. Et je trouve qu'à son âge, avoir un comportement de leader comme ça, c'est quand même beau.
Ouais, c'est à saluer, ouais.
Le pied carré de ce match, d'abord.
Yaya.
Oh là, le pied carré.
Ouais.
Entre Cabella et
Amouma. Ouais, Amouma, il a eu du mal. Hein. C'est dommage parce qu'il a une belle occasion là. Bah justement, il dévisse complètement. Enfin, pour le coup.
J'aurais mis Casri aussi.
Casper.
Casper, c'est
alors,
vrai.
Moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le seul Stéphanois qui arrive à faire des différences avant d'être dans le match, c'est Casri. Il en fait une en première période, c'est le ballon que Bounassar sort au deuxième poteau, et il en fait une très dangereuse aussi en seconde période.
Beaucoup plus, hein.
Alors, t'attends plus. Mais ce que je veux dire, c'est presque le seul qu'on a vu faire des différences individuellement.
Mais tu regardes en mirant en négatif le match aller qui s'est joué il y a pas longtemps, Saint-Étienne Marseille, où il est resplendissant.
De toute manière, il y en a pas un qui est très bon sur le match aujourd'hui, mais pour moi, c'est pas lui Casper.
En pied carré, Poloma. C'est vrai qu'il a pas, il a eu du mal.
Alors Poloma parce qu'il a eu du mal, et Poloma pour ce qu'il a fait sur le pénalty.
Le pénalty de Thomas, là, il a trafiqué le point de pénalty. C'est vrai que c'est n'importe quoi.
Et Casper, vous auriez mis qui du coup?
Bon, bah Casper.
Non, tu peux pas le mettre Casper, je trouve. C'est pas le plus mauvais de Saint-Etienne aujourd'hui.
Amouma, Cabella ou Amouma.
Et Antolier.
De côté vert.
Bah, qu'est-ce que vous voulez?
Je t'ai dit, Bouba Camara pour moi.
Ouais, Camara.
Ouais, Camara, c'est ce qu'on a dit.
Bah, c'est très bien, Antolier.
Ouais, Camara, pour toi aussi, Yaya.
Ah oui.
Toi, t'es en warning sur le bord de l'or ou toi, mon gars, toi? Laisse le warning.
En tout cas, au stade, tout le monde pensait que voilà, sans Camara, la défense n'était pas la même. Vraiment, Camara avait tous les éloges du stade.
Mais les deux sont bons, hein. Chaleta Tsar et lui, ça marche.
Oui, effectivement. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que, franchement, ils tenaient vraiment bien la baraque. Ils étaient toujours bien placés, ils se couvraient l'un et l'autre.
Et ils sont complémentaires.
Beaucoup de maturité sur les deux, et enfin pour leur jeune âge, c'était vraiment très plaisant.
Non, mais surtout, ils sont ultra complémentaires. T'as Camara qui est un peu plus dans l'anticipation, qui, de par ses déplacements, se fait rarement prendre de vitesse. Et Chaleta Tsar, lui, qui est plus physique, plus dur sur l'homme, qui est très bon de la tête. Et surtout, ce qui est agréable avec les deux, c'est que les deux ont pas les pieds carrés du tout.
Ouais.
Et la relance avec les deux, t'as deux très belles possibilités de relance.
Yaya, merci d'avoir été avec nous.
Je peux juste dire un truc.
Oui.
On a enfin battu une équipe du top 4. Donc du
top 5. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est vraiment génial. Et pour la deuxième mi-temps, alors c'est vrai qu'on s'est un peu fait chier au stade, je l'avoue. Mais au moins, on a appris à subir, entre guillemets. Parce que c'est notre problème, c'était quand on subissait, on se prenait des buts.
Exactement. Et là, t'as subi en maîtrisant.
Voilà, exactement.
Ah ouais.
Bonne soirée, en tout cas.
Ciao,
et à bientôt.
Ciao,
merci à vous.
Salut, bonne soirée exogène, comme dirait Jonathan McCarthy.
Il faut, les mots ont un sens, il faut les placer à propos.
Ça, moi, je ne veux rien dire, ce que tu veux.
Non, je m'en fous, mais j'aime bien.
La soirée exogène, qu'est-ce que ça vous donne?
Une soirée qui vient de l'extérieur.
Une contre-soirée.
Il est en warning sur le bord de la route.
Disons que quand tu passes la soirée chez toi, c'est une soirée endogène, et quand tu sors, c'est une soirée exogène.
Il est vachement endogène. En ce moment, c'est Jean-Louis Gasset qui a perdu. On va l'écouter. Réaction en direct de l'entraîneur de Saint-Etienne qui a perdu 2-0 à Marseille ce soir. Jean-Louis.
Oui, il veut pas te répondre.
Jean-Louis Gasset, s'il te plaît, Jean-Louis.
C'est possible.
Ouais.
Ah. C'est possible.
Oui, il répond.
On dira que on n'a pas battu une équipe du top 4. Ça peut se dire. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes qui perdront deux fois contre Paris, deux fois contre Lyon. J'avais trouvé que les deux fois contre Lyon, on avait figuré dans le match. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a explosé. Ça, c'est plus ennuyeux. Mais quand on fera le bilan du championnat, on dira qu'on a battu Marseille à domicile et qu'on a perdu chez eux. Donc, on a pris 3 points chacun.
Voilà, les petites réactions de Jean-Louis Gasset. Oui. Salut. Bah, bonne nuit. Merci beaucoup, Jean-Louis Gasset. Réaction, donc, de Jean-Louis Gasset. On rappelle victoire de Saint-Etienne 2-0, de Marseille 2-0 face à Saint-Etienne. Balotelli et Thauvin qui a marqué sur penalty. Supporter de l'OL, supporter du TFC. On vous attend au 32-16. Lyon, qui un peu plus tôt, eh bien, s'était imposé 5-1 face au TFC. Un TFC qui est passé complètement au travers. On va y revenir dans quelques instants, sur ce match avec Pierre Ducrot et avec Jonathan McCarthy. Et puis avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot et de Jonathan McCarthy, les résultats de ce dimanche de la 27e journée de Ligue 1, le succès de Lille 1-0 face à Dijon, pas de but entre Guingamp et Nantes, Nice qui bat Strasbourg 1-0, Marseille s'est imposé ce soir 2-0 face à Saint-Etienne, Marseille qui prend donc la 4e place à Saint-Etienne justement, qui revient à 5 points de Lyon, Lyon qui est 3e, Lyon qui a battu Toulouse 5-1, hein. Premier but de Paille, égalisation de Sévi, là on est au quart d'heure de jeu, on se dit bah ça va être sympa, il va être équilibré ce match. Une à la demi-heure de jeu, Traoré qui marque le but du 2-1 et puis Fekir sur pénalty et doublé de Dembélé, victoire 5-1 de l'OL face au TFC.
Ça aurait pu faire plus, hein.
Oui,
c'était, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Écoute, ce match, je pense qu'on peut le résumer de cette manière-là, c'était une masterclass de Nabil Fekir. Il a été coruscant.
C'est vrai qu'il a vraiment été
magnifique. Ouais, et puis en plus, il n'y a pas eu que ça. Donc.
Non, franchement, il a été vraiment exceptionnel. T'as le Lyon sans Fekir qui perd ou fait des matchs nuls qu'il devrait gagner, mais t'as le Lyon avec Fekir qui est à un autre niveau. C'est vraiment le joueur qui se fait passer un cap.
Je te rejoins complètement sur la perf de Fekir qui a été énorme. Mais en plus, il n'y a pas eu que ça.
Non, les autres ont été bons aussi, hein.
Ah ouais, Dembélé, Traoré avait des jambes, hein. Il a fait des différences.
Il a mis un but refusé d'ailleurs.
Oui. Bah, qui était bon?
Qui était beau.
Il était pas bon.
Beau.
Oui, qui était beau. Oui, qui était très beau.
Fekir fait la différence.
Même si le Toulousain défend très très mal dans sa course.
De toute façon, les Toulousains
vont
en parler, hein, mais.
Oui, voilà. Alors, mais tu sais quoi, faut pas minimiser ce qu'a fait l'OL, parce que c'est ce qu'on réclame de l'OL à chaque fois qu'il joue contre une équipe qui est logiquement moins forte. Et là, la perf de l'OL, c'est ce qu'il faut qu'il fasse et qu'il répète jusqu'à la fin de saison maintenant. Et je pense qu'ils vont le faire parce que tu rentres dans une période qui est très importante pour eux, pour aller au bout et reprendre la deuxième place.
Toujours irrésistible. Mais Fekir, c'est factoriste parce que ils ont beaucoup de qualités devant. Depay, Traoré, Terrier, enfin,
Dembélé, c'est vraiment des très bons joueurs, mais quand il y a pas Fekir, ça manque, c'est pas assez organisé, c'est pas assez ordonné, ça manque d'idées. Chacun veut un peu faire son numéro, son petit numéro dans son coin. Mmh. Quand Fekir est là, bah il prend le jeu à son compte, il distribue,
et c'est lui qui temporise.
Mais c'est magnifique. Ouais, magnifique.
Ouais. C'est vraiment beau joueur.
On a retrouvé Ndombele aussi un petit peu. J'ai bien aimé le match d'Ndombele moi aussi, qui avait beaucoup de mal ces temps-ci. Là on l'a retrouvé aussi. Bref, ça a été un match complet.
C'est sympa de le voir jouer avec son frère à la fin.
Je suis d'accord avec toi. Et puis pour eux ça devait être quelque chose.
Et Nabil Fekir qui est quand même, enfin il est assez fermé finalement. À la fin du match, c'est vrai qu'il s'est exprimé là-dessus. Tu sentais vraiment l'émotion.
Normal. T'imagines le kiff, tu joues avec ton frère. Puis tu joues pas. De quoi?
Je disais, je jouais avec ton petit frère, c'est génial. Je dis, je sais pas, j'en ai pas. Donc.
Ah oui.
Et le petit malheureux.
Bah non, après, plus malheureux que moi. On va accueillir Nassim. Non,
mais... Avec tes cousins, je sais pas.
Oui, là, j'en ai plein, putain.
Ils font une équipe, il y a même plus d'émotion, là.
Non, on remplit le stade. Hein. Après l'avoir construit, bien sûr. On accueille Nassim, supporter de l'OL qui nous a appelé au 32-16. Ça va, Nassim?
Oui, ça va, et vous, Jonathan, salut. Pierre, Nicolas?
Bonsoir, Nassim.
Ça roule.
Bonsoir. Ouais, je vais commencer par dire bravo à j'ai deux amis marseillais, Nabil et Nordine. Bravo pour cette victoire à Saint-Étienne. Par contre, je pense pas que ce soit pour l'année prochaine non plus la petite musique de la C1. Il va falloir attendre.
Ah non.
Ah bah t'as 5 points d'avance sur tes potes hein, pour l'instant. Hein.
Ouais.
Je pense que
c'est ce qu'on disait là, c'est qu'il faut que Marseille reprenne 3 points à Lyon.
Ouais, mais il y a le match de Paris normalement que Lyon a déjà joué.
C'est vrai,
ça va compter.
Moi aussi. Ah, c'est très très.
Non, et puis honnêtement là, tu sens que Lyon va plus en lâcher beaucoup des points. Voilà, c'est ça surtout.
En termes d'effectifs, ils sont au-dessus tout de
même. Oui.
J'aimerais bien. Bah, j'étais au stade moi, j'ai vu le match au Groupama Stadium. Match très agréable parce que quand on gagne 6-1, on peut que être satisfait. Aussi des bons changements, il a sorti à voir de l'effectif des 11 et je pense que Touzard avec Ndombele au milieu de terrain, ça me permet à Ndombele de plus se projeter. Donc ça j'ai bien aimé.
Mmh.
Et puis on a vu des individualités, Memphis qui est le premier but, même s'il y a une faute de main, il met un très beau but, Bertrand aussi, pareil, Dembélé devant, donc les individualités à Lyon sont très intéressantes, comme à chaque fois. Voilà. Après en termes de collectif, c'est vrai que les 20 premières minutes, on n'était pas rassurés, je me suis dit... Oula, ça va encore être une après-midi un peu particulière.
Ouais, ils ont mis un petit peu de temps à se mettre dans le match, mais ça a été assez vite réglé quand même.
Tout à fait. Après, voilà, j'aimerais bien qu'on voit tous nos joueurs bien jouer en même temps. Par exemple, aujourd'hui, le monsieur Betis, c'était Mendy. Ouais. Il nous a perdu des ballons, mais...
Sur le but, là, ouais.
Ouais, et puis voilà, donc c'est vrai.
Déjà, au début de match, il fait une talonnade. Attends,
déjà contre Monaco. Hein.
Ouais.
Déjà, le match contre Monaco, il passe complètement au travers.
Après, c'est un jeune joueur.
C'est pas le seul, hein, cela dit.
C'est un jeune joueur, il doit digérer son changement de statut aussi.
Peut-être.
Ouais, Jonathan, par contre, je sais pas si t'as vu le match, les erreurs qu'il commet, c'est l'excès de confiance.
Bah, regarde la talonnade.
C'est un manque de concentration.
Non, c'est de la prétention aussi. La talonnade qu'il fait là, dans son camp.
Ce que j'appelle manque de concentration, c'est qu'effectivement tu sors de ce que tu dois faire pendant un match et avec un peu d'humilité effectivement.
Il y a des trucs parfois tu te demandes, mec,
ouais, c'est un excès de confiance si tu veux.
Tireri, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on lui demande.
Alors en tout cas, toi Nassim, tu vois pas tes potes marseillais recollés à hauteur de Lyon. On rappelle qu'il y a une confrontation entre les deux à venir. On l'a dit et répété ce soir. On va écouter Léo Dubois qui s'exprime à la fin du match. Lyon a 5 points de retard sur Lille et Dubois il veut foncer sur le LOSC justement.
Ouais. On va essayer de faire le maximum et le maximum c'est de gagner tous les matchs donc voilà, ça va être à nous, c'est un gros challenge qu'on se fixe mais on a envie de finir deuxième donc il faut absolument qu'on se projette là-dessus.
Lille a gagné avant le match, vous le saviez, ça vous motive ça vous donne, voilà, 8 points d'avance.
Écoutez, je savais même pas que Lille avait gagné là à cette heure-ci donc pour ma part pas plus de motivation parce que Lille avait gagné.
Voilà, il a raison. Il est le discours est ambitieux et cohérent, mais objectif. Il faut qu'il gagne tout jusqu'à la fin, Lyon.
Tu sais quand est-ce que ça arrive.
Après, c'est le problème. C'est aujourd'hui, cette assurance, on me dit que pose la maison sur Lyon, ne perd plus de match jusqu'à la fin de la saison, ou fait qu'un nul face à Marseille, je serais incapable de le faire. C'est trop.
Vous savez quand vous jouez Lille.
Ouais, ce sera début
mai. Il y avait une histoire de fin mars, je crois.
Début mai.
Elle est avec la prolongation de Genesio. Mmh.
C'est début mai, normalement.
Ouais.
Début mai, le match contre Lille, ok.
Ah bon, bah voilà.
Voilà, c'est
à domicile. Après, je te dis pas que Lyon va réussir à le faire, mais qu'ils en aient l'ambition aujourd'hui de gagner jusqu'à la fin de saison. C'est ce qu'ils doivent dire et c'est ce qu'ils doivent avoir en tête. Très clairement.
Deux points. Pardon, cousin, mais alors justement, je suis en train de regarder le calendrier. Alors, ça peut encore bouger, hein, notamment avec à chaque fois tous les reports de matchs. Mais normalement, Lyon devrait enchaîner Lille et Marseille ensuite.
Ouais.
Donc, ça peut jouer là.
Paradoxalement, enfin, je sais pas, mais on sera lent. C'est peut-être pas les matchs qui font le plus peur quand t'es lyonnais cette saison, quand t'es supporter lyonnais.
C'est de prendre les pieds dans le tapis contre Dijon.
C'est les matchs qu'ils aiment. Et s'ils sont ambitieux et qu'ils se lancent ce genre de défi de gagner tous les matchs, ça va leur servir justement comme activation mentale dans des matchs que cette année, parfois, ils ont un peu loupé par manque de motivation ou d'implication.
Et il y a la Champions aussi qui peut s'immiscer encore là-dedans. Hein.
Ça va être compliqué quand même. Mais
c'est pas interdit d'y croire, les mecs.
Non, c'est pas interdit.
Qui irait à ce niveau-là.
L'impressionnait de finir en général en force sur les.
Oui, c'est vrai.
On lui faisait allusion également il y a quelques instants, les frères Fekir qui ont joué ensemble. Bah justement, on va les écouter, on va les voir sur RMC Sport News également, les frères Fekir. Belle image. Pour la première fois, ils ont évolué ensemble tous les deux en Ligue 1.
C'est vrai que, voilà, on y pense un peu parce qu'il y a son frère sur le banc. Le score, il était favorable. Il y a plus 3 ou plus 4. Voilà, à partir de ce moment-là, on se dit que c'est possible. Et quand on le voit rentrer, c'est que du bonheur.
Yacine.
C'est pour lui aussi, hein. Il n'y a pas que moi. Hein.
Ça fait quoi justement de rentrer?
Et là, c'est
Yacine.
Sourire
déjà.
Ah, bah ça fait plaisir.
C'est tout.
Là, ça fait plaisir de jouer avec son grand frère.
Surtout quand on s'entend bien. Non, c'est bien. C'est une bonne augure. Pas trop, non? Non, c'est normal. Je voulais le mettre en confiance. Voilà, après, on avait l'habitude de jouer ensemble quand on était petit. Voilà, ça fait plaisir de rejouer ensemble quelques années plus tard.
C'est hallucinant, déjà, la ressemblance physique.
Ah, non, mais franchement, c'est un vrai kiff.
C'est mignon.
Ça doit être un vrai kiff.
Ouais.
Non, franchement.
Il mesure combien, son petit son?
Ah, il est plus petit.
Il est 1m70.
Après, il est tanké, Nabil Fekir aussi, hein. Donc,
En termes de taille, il est pas très grand.
Il est 1m113, Nabil Fekir. Donc là,
Boros mesure 1m60.
Oui, non, mais son petit frère est plus petit. Mais je crois qu'on peut pas réaliser, mais le kiff que ça doit être.
Bah oui.
Quand t'as ton frère.
Ah, jouer avec ton père, ça doit être un truc de dingue aussi. Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait, mais ça arrive.
Si.
Ah ouais?
Cody Johnson l'a fait en équipe nationale, je crois.
Ouais. Ok.
Non, mais en plus
avec l'OL, quoi. C'est leur club, tu vois.
Ah là, oui.
Ils se retrouvent pas dans un club en fin de carrière pour l'un et en début de carrière pour l'autre. Enfin, les deux sont.
Et il paraît qu'il est bon en plus, son frère.
Ouais, s'il est là, honnêtement, c'est déjà qu'il est pas, complètement mauvais, c'est clair. Quand tu joues avec l'OL, quand t'es jeune, en général, c'est une belle preuve de qualité.
Sans aucun rapport, je voulais juste dire quelque chose. J'avais entendu que Jonathan avait dit hier sur RMC concernant Paris. Paris va y favori pour gagner la C1.
Ouais. J'ai dit Paris est dans le groupe des favoris pour gagner la C1.
Ouais, faudrait peut-être qu'on arrête, hein, parce qu'il y a depuis 6 ans, à chaque fois qu'un journaliste qui avait dit ça, sportif, il s'était fait virer, il y aurait plus de supporters.
Je vois pas où est le problème de dire que cette année, quand tu regardes l'état de
France. Ça tombe bien, il est pas journaliste en plus.
Non, mais voilà, en plus, quand tu regardes l'état des autres, des principaux concurrents, à savoir Barça, Real Madrid, et la Juve qui est en passe de se faire éliminer, quand tu regardes leur état de forme et quand tu vois ce que fait Paris, en quoi c'est choquant de dire que Paris est au même titre que Manchester City et que l'Atlético dans les trois principaux favoris de la C1.
De toute manière, moi,
ça veut pas dire qu'on va gagner, hein.
C'est une des C1 depuis ces dernières années qui est le plus ouvert. Moi,
ça fait six ans, pareil. Il y a eu des équipes qui étaient moins bien que Paris. Et à chaque fois, Paris est passé à la trappe.
Moi, écoute, ce que je disais, c'est t'as bien écouté la vie tranchée d'il y a deux jours. Je disais que je n'avais jamais cru jusqu'à présent aux chances du PSG en Ligue des Champions.
Ouais, parce qu'il y avait toujours des équipes.
De toute façon,
parce que non, moi je te rejoins. Il y avait des équipes qui étaient au-dessus du PSG.
Et je trouvais que le PSG avait certains manques qui me semblaient irrémédiables à ce niveau de compétition. Mais là, cette année, non. J'ai une autre impression.
Ah, t'as aussi la Juve qui va sûrement être éliminée. Déjà, ça va en faire un en moins.
Il faut qu'on évoque Lille aussi quand même. Merci en tout cas, Nassim, de nous avoir.
Ciao, Nassim.
Victoire du LOSC, donc 1-0 face à Dijon. Alors un seul but donc dans
un
ce match.
Un beau but. Hein.
Ouais, un but contre son camp de.
C'est quoi, c'est bon
signe. On rappelle que Christophe Galtier sera l'invité de Tim Luga hein, demain sur RMC. Alors le LOSC a eu du mal hein, dans ce match, même si bon, ils ont pas été véritablement inquiétés par.
Non, ils sont pas inquiétés. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont quand même quelques actions. Ils auraient pu être décisifs autrement qu'avec ce genre de but. Mais tu sais quoi, j'ai presque envie de te dire que ça sent bon. et que c'est un signe de gagner ce genre de match comme ça avec un but avec de la réussite. Ça sent l'équipe qui va qui va aller au bout et qui va lutter avec Lyon pour deuxième, troisième, voilà, c'est, bien malin, c'est bien, celui qui va pouvoir dire dans quel ordre.
Mais... c'est déplacement à Saint-Etienne, ils vont recevoir Monaco, ils vont aller à Nantes, ils vont aller à Reims ensuite qui cartonne en ce moment le stade de Reims et ensuite match contre le PSG. Donc ouais, ils restaient sur deux nuls hein, les Lillois. Hein.
C'est pour ça que je trouve pas ça déconnant de penser que Lyon peut récupérer la seconde place.
Ouais, ça va jouer au bout jusqu'au bout.
5 points d'écart et plus la confrontation. Ouais. Mais écoute, le problème c'est que Lille en début de saison, hein, il y avait une sorte d'effet de surprise, mais là maintenant les équipes ont commencé à comprendre comment comment aborder leur match face à eux, mais ils ont souffert, mais je suis pas non plus hyper rassuré pour eux quand on regarde le contenu.
Moi, j'aime bien. Je continue à aimer. Je suis d'accord avec toi.
C'est plaisant.
C'était plus flamboyant, c'était plus tranchant et plus net.
Ça s'essouffle hein, dans ce début de saison. Alors, est-ce que c'est un essoufflement qui est physique? Je sais pas.
Un petit peu peut-être. Un petit peu peut-être, mais t'as mis le doigt aussi.
Ça devient un peu stéréotypé parfois.
Ouais, mais t'as mis le doigt sur quelque chose aussi. C'est que les équipes en face jouent différemment contre Lille aujourd'hui en seconde partie de championnat qu'au début, très clairement. Mais ils arrivent à continuer à s'en sortir. Moi je dis que ça sent bon pour Lille et Lyon pour lutter
pour la Ligue des Champions, c'est sûr hein, ils seront sur le podium et puis rappelons-nous hein,
c'est 2+1 hein.
Oui, c'est vrai. Ils seront en tour préliminaire, mais rappelons-nous d'une chose, c'est que si en début de saison on avait dit Lille va jouer sera sur le podium, personne n'aurait cru.
Mmh. Oui, enfin maintenant ils sont quoi, c'est ça.
Maintenant ils sont mais c'est quand même remarquable ce qu'ils font.
Enfin, cela dit, je sais pas, remarque. J'allais dire, Reims, on peut le dire, ils sont sixième, ça c'est une vraie surprise. Saint-Etienne cinquième, même aussi, hein, je sais pas si on l'aurait parié en début de saison non plus. C'est pour ça, c'est pas.
Ils restaient sur une deuxième partie de saison, la saison passée très très bonne, sur une bonne dynamique, mais c'est.
Bel effectif, Saint-Etienne.
Mais comment vous expliquez que Lille a un peu plus de mal en ce moment, notamment au niveau du jeu?
C'est ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. En fait, tu t'écoutes pas l'émission, toi, en fait.
Non, je parlais avec. On a dit que c'était peut-être un creux physique, un jeu qui devient parfois un petit peu stéréotypé et des adversaires qui maintenant
abordent les matchs différemment contre Lille aujourd'hui que la première partie de championnat, très clairement.
Mais sinon, comment vous expliquez vous qu'au fait ça joue pas?
Alors en fait il y a peut-être une petite baisse physique
le salopard.
Après, si t'as rien pour finir l'émission, on peut faire autre chose, hein, mais je sais pas, on trouve un sujet, nous.
Si, on a des supporters du LOS qui vont arriver au 32-16. Un mot aussi sur Dijon, les gars. Oui. Dijon qui enchaîne une cinquième défaite de suite. Alors, c'est vrai que tout à l'heure...
Ils y vont tout droit. Hein.
On a survolé le TFC, alors qui pour l'instant est sauvé. Ils sont 15e, ils ont 28 points, les Toulousains.
Ouais, pour l'instant, ils sont sauvés, mais tu sais quoi...
Dijon est relégable, hein. Ils sont à égalité de points avec Caen, barragiste.
Ouais, mais...
Moi, je verrais bien, mais tu sais quoi, Joe, je verrais bien Toulouse se battre jusqu'au bout aussi pour le maintien. Monaco, ça va partir. Amiens, quand tu les regardes jouer, il y a quand même un vrai état d'esprit d'équipe collectif,
depuis
tu vois.
Quatre attaquants là, ça va beaucoup.
Ouais, c'est ça. Il y a une ambition. Alors, on dit pas qu'Amiens joue bien tout le temps et que c'est
super entraîneur.
Mais puis collectivement, quand tu vois les matchs, tu sens que ça se bat ensemble et que ça tire dans le même sens. Et ça, à ce moment-là de la saison, ça va être important et ça va compter. J'ai pas vu ça. Alors aujourd'hui, c'est contre Lyon et
ils ont 8 points dans Toulouse.
Ouais, je sais.
Mais Dijon, ils y vont tout droit. Il y a rien à Dijon.
Ouais, mais attends, on dit ça pour Caen, on dit ça pour Dijon.
Et Guingamp.
Hein?
Guingamp.
Ouais, ça va être compliqué pour les trois, mais bon.
C'est les trois.
Amiens a 5 points d'avance, mais.
Je pense que ça sera entre ces trois-là.
Pour vous, Amiens, c'est fait.
Ils sont dans une dynamique qui fait que on a toutes les raisons de croire que Amiens va se maintenir.
Je pense qu'Amiens et Toulouse, ça va être tendu jusqu'au bout. Je te dis pas qu'ils vont y aller. Je te dis que ça va être tendu jusqu'au bout.
Ça sera pas simple, mais ça se jouera jusque dans les derniers instants. Mais les autres, franchement, quand tu regardes dans le contenu, les trois derniers,
oui, c'est moins bon que les autres.
Surtout Dijon et Guingamp, il y a rien.
Tiens, les gars, j'en profite également pour vous donner quelques infos du jour. On parlait des équipes qui étaient pas très bien classées en ce moment. Il y a Bordeaux qui est 13e. Alors, vous savez qu'il y a un accord entre Paulo Sousa et Bordeaux. Sauf que, alors c'est une information qui vient d'Italie. Tous les médias italiens ont repris cette information aujourd'hui. La Roma est en train de s'activer pour essayer d'embaucher également Paulo Sousa, l'entraîneur portugais. La Roma qui hier s'est inclinée 3-0 face à la Lazio. Et ça a un petit peu accéléré les choses. Et il y a un match qui pourrait être capital pour Di Francesco. C'est le match retour. Le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Porto. On rappelle que la Roma s'était imposée 2-1. Du coup, Bordeaux, qui pensait peut-être avoir son coach, eh bien pourrait voir Paulo Sousa lui filer sous le nez.
Bah, ils peuvent prendre Di Francesco du coup. Non, mais Di Francesco, il a jamais vraiment. Alors, ils ont fait un très beau parcours l'année dernière en Ligue des Champions, mais cette année, quand même, tu t'attendais à beaucoup mieux. de la part de la Roma. Là, ça va pas vraiment. Il y a des joueurs qui sont ultra décevants à l'image de Javier Pastore. Il est un peu sauvé par l'exclusion du petit Zaniolo.
Il est plus là, Pastore.
Il a joué là apparemment le week-end dernier. Non, mais il a dû faire l'équivalent de 3 matchs.
Saison. C'est terrible.
Donc ouais.
Et là, il joue pas depuis un moment alors qu'il est pas blessé en plus.
Alors, c'était même très proche et au final ils avaient retrouvé une publication sur les réseaux sociaux, une déclaration qu'il avait faite sur la Roma à l'époque où il était à la Fiorentina, et au fait ça l'a un peu suivi, c'est un peu le boulet quoi. On a dit voilà, tu pouvais pas faire
mais
ça.
Mais c'est un bon coach hein. Moi, un de mes clubs préférés en Italie c'est la Fiorentina. Je vais souvent en Florence, je trouve que c'est la plus belle ville du monde, et j'avais vu la Fio jouer. Franchement, ça jouait bien hein. Tu te faisais jamais chier quand t'allais là au stade.
Tiens, Neymar a délivré une petite interview, une belle interview même d'ailleurs à Globo au Brésil. Alors il a évoqué son avenir, ou du moins il a répondu aux questions sur son avenir. Neymar, toujours ses rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Je cite le Brésilien du Paris Saint-Germain, il n'est pas question d'ouvrir le mercato. Mais si un président vient lui parler, parfois le joueur n'a pas de porte de sortie. Même s'il veut rester, il est parfois aussi obligé de partir. Je ne parle pas de mon cas, mais il y a des exemples qui montrent que la vie d'un footballeur va très vite, où les choses se passent en quelques secondes. Il est évident que le Real Madrid est une grande équipe, l'une des meilleures du monde, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais aujourd'hui, je me vois à Paris, a déclaré Neymar. Voilà.
Oui, et puis il avait dit qu'il partirait pas il y a 2 semaines aussi. Enfin, il a beau démentir certaines rumeurs, on le voit, il le dément, c'est lui, et puis une semaine après la rumeur continue, donc qui parle ou qui parle pas, de manière
Et tiens, également, on n'a pas eu le temps de l'évoquer hier. On a parlé d'arbitrage pendant le match également. Ça a été voté hier par le board, par l'IFAB. Il y a des réformes d'arbitrage qui sont tombées. Il y a un communiqué de presse qui a été d'ailleurs publié par le board sur le sujet de la faute de main. Il a été décidé de fournir une définition plus précise et détaillée de ce qui constitue une faute de main, en particulier au regard des actions lors desquelles une main involontaire et accidentelle sera indiquée. Alors à titre d'exemple, l'IFAB indique qu'un but inscrit directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle, et un joueur qui marque ou se crée une opportunité de marquer après avoir obtenu la possession ou le contrôle du ballon de la main ou du bras, même de manière intentionnelle, ne sera plus toléré. En gros, si tu marques un but et que le ballon te tape sur la main sans faire exprès, eh bien le but ne sera plus accordé. Alors c'est marrant parce que...
Même de manière involontaire plutôt, pas intentionnel.
Involontaire, parce que sinon ça rien. D'ailleurs, il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Vous savez, ce fameux but de Bergkamp là, où il fait le tour du joueur. En fait, le ballon lui tape sur la main. Et ben avec cette nouvelle règle, ce genre de but ne sera plus accordé.
Oh, quel dommage, parce que quel but.
Il y a d'autres réformes également. La loi 12 relative aux fautes incorrections prévoyait jusqu'à présent de sanctionner d'un coup franc ou d'un pénalty le fait de toucher délibérément le ballon de la main d'intentionnalité sera désormais supprimée. C'est ce qu'on vient de dire effectivement. Lors d'un remplacement, le joueur amené à quitter le terrain devra le faire par le chemin le plus court, alors que jusqu'alors il devait taper dans la main du mec qui allait rentrer. Donc on va gagner du temps avec ça également. Bien, les attaquants ne pourront plus perturber le mur adverse.
C'est pas le plus gros problème.
Non, mais tu gagnes du temps, c'est des petites réformes. Les attaquants ne pourront plus se mettre dans le coup franc adverse, tu vois, des défenseurs.
Ah bon,
dans le mur.
Ils pourront plus y aller.
Honnêtement, qu'on interdise aux joueurs de venir au contact, mais qu'on n'ait pas le droit de se mettre dans le mur.
Ils pourront plus perturber le mur adverse lors d'un coup franc. Voilà. Les attaquants. Voilà. Les gardiens ne seront plus obligés d'avoir les deux pieds sur la ligne lors d'un penalty, mais seulement un seul. Donc en fait, il pourra bouger le mec.
Okay. Il pourra se mettre de profil, quoi. Avec un pied.
C'est bien pour arrêter un penalty, ça.
C'est utile, hein.
C'est des règles, ça travaille, Enfin là, comme ça paraît super utile,
Merci les gars, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci
à vous, monsieur.
Jonathan, vous rappelle donc victoire de Lille 1-0 face à Dijon, 0-0 entre Guingamp et Nantes, 1-0 pour Nice face à Strasbourg, Lyon qui a cartonné 5-1 face à Toulouse, et puis Marseille s'est imposé ce soir 2-0 face à Saint-Etienne. Marseille qui passe devant Saint-Etienne, qui est quatrième au classement à 5 points de l'OL. Nous, on va vous laisser parce qu'il y a le RMC Poker Show qui prend le relais, bien entendu. Merci à Jérôme Thomas et merci beaucoup à Quentin Borbert qui nous ont aidé à préparer cette émission. Bisous, bonne nuit. Ciao, ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.